pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc, texte de la liturgie catholique romaine pour le quatrième dimanche de l'Avent. En ces jours-là, Marie se lève et elle se rend dans le haut pays avec hâte dans une ville de Juda. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Et alors, quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Élisabeth est remplie du souffle saint de l'Esprit et elle s'écrie à pleine voix.
« Bénie es-tu parmi les femmes et béni le fruit de ton sein. » D'où me vient que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car voici, quand la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru, parce que se réalisera ce qui lui fut dit de la part du Seigneur Dieu. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Le récit d'aujourd'hui porte souvent le titre de « Visitation ». De quelle visitation s'agit-il? Puisque Luc est le seul des évangélistes à raconter cet épisode, quelle est sa source d'inspiration? Et comment faut-il comprendre ce récit? Quel est son sens profond? Et quel peut être son apport aujourd'hui pour notre vie de chrétienne et de chrétien?
Eh bien, voilà des questions auxquelles nous tenterons de répondre, mais regardons d'abord le contexte. Notre récit fait partie des premiers chapitres de l'Évangile de Luc, chapitres qui sont consacrés à l'enfance de Jésus. Luc y fait un constant parallèle entre Jésus et Jean le Baptiste. L'annonce à Zacharie et l'annonce à Marie, la naissance de Jean, la naissance de Jésus. Dans le récit de la Visitation, le parallèle entre Jean et Jésus se double d'un autre parallèle, celui entre Marie et Élisabeth. Mais le récit est également lié à celui de l'Annonciation. L'ange Gabriel avait annoncé à Marie qu'elle avait la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, et qu'elle enfanterait un fils. Il lui avait fait part d'une autre bonne nouvelle pour authentifier son message.
Élisabeth, ta parente, elle aussi est enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Et elle en est en son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu.
Eh bien, Marie accueille ces bonnes nouvelles en son cœur et elle dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur ». Nous pouvons facilement imaginer l'étonnement et l'émotion de cette jeune fille. Elle n'a donc pas tardé à rendre visite à sa parente Élisabeth et par le fait même, elle va pouvoir vérifier les paroles de l'ange. Toute la démarche de Marie s'inscrit donc dans la suite de son interrogation quand l'ange lui dit qu'elle serait la maman de Jésus. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Gabriel, le messager, lui confie que l'Esprit viendra sur elle. Cette présentation de Luc est calquée sur les récits bibliques, les récits qui annoncent des naissances ou des vocations où Dieu se manifeste d'une façon spéciale. En général, ces récits sont construits de cette façon, annonce par un messager ou un songe, interrogation de celui ou celle qui reçoit le message, enfin, signe donné par Dieu pour signer son intervention. Le récit de la Visitation sera donc principalement la constatation du signe donné par Dieu. La vérification de ce qui se passe pour Élisabeth va être pour Marie une confirmation de ce que le messager de Dieu lui a dit pour elle-même. Le Magnificat de Marie viendra clore le récit Annonciation-Visitation et en donner tout le sens pour l'histoire d'Israël et pour l'histoire de l'humanité.
Dieu vient secourir Israël, son serviteur, en se souvenant de sa miséricorde en faveur d'Abraham et de sa descendance pour l'éternité. Thank you. En ces jours-là, Marie se lève et elle se rend dans le haut pays avec hâte dans une ville de Juda. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth.
Marie se rend avec hâte. Cette hâte ne décrit pas d'abord la rapidité du voyage, mais plutôt l'empressement de Marie de se rendre disponible à la volonté divine. Hâte, empressement, zèle, trois mots pour traduire chez Marie un cœur ardent qui s'empresse de se rendre où se trouve son amour. Le mot est souvent employé dans les lettres de Paul pour décrire précisément le zèle d'un cœur croyant.
Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivaliser d'estime réciproque, d'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le Seigneur.
N'oublions pas d'ailleurs qu'en français, le mot zèle s'est transformé en jaloux. Eh bien, c'est cette jalousie de l'amour dont on parle déjà dans la Bible de Moïse. La confiance de Marie au Dieu vivant la fait vivre d'enthousiasme, comme les bergers qui vont en hâte à Bethléem pour découvrir le signe qui leur a été donné par les messagers célestes. On peut aussi penser à ces disciples d'Emmaüs, dont le cœur est tout brûlant, et qui se lèvent à l'instant même pour retourner à Jérusalem et trouver les onze qui vont leur dire que le Seigneur est vraiment ressuscité. La hâte de Marie traduit la ferveur ardente, l'enthousiasme avec lesquels elle vit cette intervention de Dieu dans sa vie. Elle vit ce bonheur incroyable de réaliser une promesse divine. L'évangéliste ne relate rien du voyage, peut-être pour mieux centrer son récit sur la rencontre des deux femmes. Marie entre donc dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Il est probable qu'elle le fait par le souhait habituel chez les Juifs, « Shalom, paix à toi ». Dans la culture du peuple de la Bible, se saluer, c'est se souhaiter la santé de tout l'être, c'est-à-dire l'harmonie du corps et de l'âme. Il s'agit de beaucoup plus que d'un pieux souhait. C'est véritablement se transmettre cette paix en accordant à l'autre l'amour qui engendre la paix. Donnons quelques exemples qui sont pris dans les récits évangéliques.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et si s'y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, Jésus vient. Il se tient au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
Ce souhait de la paix, c'est donc beaucoup plus que notre simple « bonjour ». Un bonjour, d'ailleurs, que nous disons sans trop y penser. Ne faudrait-il pas inventer une autre salutation à un niveau de profondeur qui produise une vraie rencontre? Mais si nous pouvions au moins habiter nos salutations du souffle de Dieu, afin qu'elles ne restent pas de superficiels saluts.
Alors, quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant bondit en son sein. Élisabeth est remplie de l'Esprit-Saint.
Marie est tout heureuse de partager avec sa parente le double secret qui les unit. À cette salutation de Marie, Dieu va répondre. En confirmant sa promesse, l'enfant bondit dans le sein d'Élisabeth. C'est là le signe que la promesse faite à Marie s'est bien accomplie dans sa propre chair. Par deux fois, le récit souligne l'importance de cette salutation. Au verset 41, quand Élisabeth entend la salutation, et au verset 44, quand la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles. Cette répétition n'est-elle pas là pour nous dire que cette salutation ne vient pas seulement de Marie? Avec Marie, c'est Dieu lui-même qui salue Élisabeth. Cette présence de l'Esprit se traduit en signe manifeste, l'enfant qui bondit d'allégresse et Élisabeth qui va s'écrier à pleine voix. Il y a ici bien plus que l'émotion humaine de deux mamans heureuses d'être mères. Il s'agit de l'émotion profonde et surnaturelle devant l'intervention d'un Dieu qui est tout amour. À travers cette rencontre, se dévoile la présence de l'Esprit divin qui a fait irruption dans la vie de Marie et d'Élisabeth. Le divin rejoint l'humain dans le concret de la vie. Ces deux mamans expérimentent intensément l'Esprit de Dieu qui agit en leur personne. Et c'est cette communion dans l'Esprit qui provoque le bondissement de Jean dans le ventre de sa maman. Le contact du divin avec l'humain se manifeste comme une explosion. On trouve une expression semblable dans le psaume 114 que les Juifs chantent pour les grandes fêtes, dont la fête de la Pâque.
Les montagnes sautent comme des béliers et les collines sautent comme des agneaux.
Nous ne pouvons sans doute qu'imaginer toute l'intensité de vie divine qu'Élisabeth et Marie ont alors ressentie. C'est au cœur même, en effet, de nos échanges humains que Dieu se dit et qu'il dit son amour. Si l'enfant bondit dans le sein d'Élisabeth, c'est que l'Esprit de Dieu est présent sur Jean. Cela avait d'ailleurs été annoncé par l'ange lors de l'annonce faite à son père.
Car il sera grand devant le Seigneur et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
On trouve de semblables descriptions pour plusieurs personnages de la Bible. Rappelons-nous ce que Dieu dit à Jérémie.
La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète de nation, je t'ai établi.
Cela veut sans doute manifester que la mission de Jean, comme celle des prophètes, ne sera pas une décision seulement humaine, mais qu'elle est une réponse à un appel du Dieu vivant. Ne peut-on pas aussi étendre cela à tout être humain ? La naissance d'un enfant, surtout s'il est le premier, fait pressentir intensément aux parents que cette vie qui sort d'eux-mêmes est aussi le fruit du Créateur. Toute venue au monde évoque en nous ce mystère infini qu'est la vie humaine. Tout être venant au monde porte l'empreinte du Dieu tout aimant qui a fait la création pour qu'elle vive à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire d'un amour immortel.
Élisabeth, remplie du souffle saint de l'Esprit, s'écrie à pleine voix « Bénie es-tu parmi les femmes et bénis le fruit de ton sein. »
Parce que l'Esprit Saint visite Élisabeth, alors elle se met à parler. Elle devient elle-même porte-parole de Dieu pour sa parente. « Tu es bénie de Dieu, Marie. » Toute maternité est une bénédiction du Dieu de la vie. Le cœur d'Élisabeth s'émerveille devant l'intervention divine en Marie. On retrouve une belle expression semblable dans le livre de Judith.
« Béni es-tu, toi, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre. »
Mais lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, la foule redira aussi avec le psaume 118 « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Dieu. » Le Messie à venir n'est-il pas l'être béni de Dieu par excellence ? Rempli de l'Esprit Saint, la maman de Jean s'est discerné et confirmé que le projet de Dieu s'accomplit en la chair de Marie. De même, au début de l'Église, notamment le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint envahit intensément les disciples. Ce sera alors comme une explosion d'étincelles divines.
Des langues comme de feu se posèrent sur chacun. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
En ces moments-là, c'est une communication de vie divine qui se manifeste entre les personnes. C'est un projet de vie divine qui prend chair en l'humanité. Au-delà de la visitation de Marie, au cœur même de cette visitation, c'est de la visitation de Dieu dont il s'agit.
Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?
Élisabeth reconnaît Marie comme mère de son Seigneur. L'appellation Seigneur était fréquemment employée à la cour des rois d'Israël. Le roi est en effet celui que Dieu a oint, a messié, pour qu'il le représente, lui Dieu, qui est le seul véritable roi de son peuple. Le psaume 110 exprime fort bien cela. « Le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur. » Le deuxième Seigneur représente le roi Messie. L'expression « Seigneur » désigne sans doute ici que Jésus est le Messie que le peuple attend alors avec hâte. Le récit de Luc emprunterait peut-être au deuxième livre de Samuel, dans lequel David s'exprimait ainsi « Comment l'arche du Seigneur viendrait-elle vers moi ?» Il s'agit de l'arche d'alliance qui contenait les tables de la Torah et la manne. Les tables et la manne qui étaient les deux symboles de la présence de l'Éternel sur terre. Par cet emprunt à Samuel, Luc voudrait donc nous dire que désormais, la demeure du Seigneur, ce sera le corps de Marie. C'est Marie qui est maintenant la nouvelle arche de l'Alliance, porteuse de la présence divine. Bienheureuse, une telle expérience de contact conscient avec le divin provoque des réactions d'allégresse.
Lorsque ta salutation a retenti, l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein.
Chez Luc, il y a tout un climat de joie et de béatitude qui jaillit de l'attente ardente et de la venue du Messie. La joie est en effet une des caractéristiques de son évangile. Rappelons-nous quelques expressions. L'ange dit à Zacharie :
Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance.
Le messager divin entre auprès de Marie et lui dit :
Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi.
Marie jubile devant cet événement étonnant.
Mon âme exalte le Seigneur et mon cœur bat de joie pour le Dieu qui me sauve. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse.
Enfin, c'est la même joie qui éclate lorsque le messager divin dévoile la naissance au berger.
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur qui est le Christ Seigneur.
Les interventions, les visitations de Dieu dans nos vies sont des moments de joie, parce que ces visitations sont des moments qui nous sont donnés, qui nous sont accordés gracieusement, et la joie naît du don, car le don est une manifestation de la vérité de l'amour de celui qui donne. Eh bien, comment est-il possible de discerner ces dons de Dieu dans notre quotidien ? Partageons, si vous le voulez, deux petits moments de grâce. C'est à la fin d'un repas communautaire. La petite Cambodgienne de 5 ans, Périane, qui vient depuis peu seulement d'être accueillie dans une famille québécoise, quitte sa chaise et elle vient dire à l'hôte de ce repas avec un beau sourire : « Le repas était très bon, je vous remercie beaucoup. » C'est un merci tout simple, rempli de gratitude, vécu et expérimenté par un enfant qui a perdu sa patrie et qui est peut-être à cause de cela plus sensible aux gestes de gratuité.
Le second temps de grâce nous est donné par un enfant qui est sorti depuis peu du ventre de sa maman. Il y avait eu des complications durant la grossesse et le médecin avait même décelé une malformation du fœtus. La naissance a eu lieu, le bébé a subi une opération et aujourd'hui, il est en bonne santé. Une jeune adulte, marraine de ce petit garçon, raconte ce que cette naissance lui a fait vivre. À cette époque, je vivais un mal à l'âme, je fuyais mon malaise dans l'alcool. J'avais un ami qui me proposait des moyens pour m'en sortir, mais je ne voulais rien savoir. Puis un jour, alors que j'étais au bout de mon rouleau, je n'en pouvais plus. Voilà que l'image de cet enfant me vient à la mémoire. Je prends alors conscience que lui, dès le sein de sa mère, a combattu pour vivre, tandis que moi, aujourd'hui, je détruis ma vie. Cet enfant a été pour moi un réveil spirituel et le commencement de ma réhabilitation.
Bienheureuse, bienheureux, celui, celle qui accueille le passage de la divinité en sa vie. Puissions-nous être attentifs et disponibles à ces visites toutes gratuites du divin. Le souffle divin peut en effet inspirer tout être humain qui est ouvert à sa visite. Il y a toujours possibilité de faire naître des étincelles de résurrection pour celui et celle dont le cœur est ouvert et disponible à l'impossible.
Bienheureuse celle qui a cru, parce que se réalisera ce qui lui fut dit de la part du Seigneur.
Marie, femme de foi, s'est rendue disponible à la parole de Dieu. « Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit », a-t-elle répondu au messager divin. Elle s'est empressée de rendre visite à sa parente Élisabeth. Elle a mis en pratique sa confiance au Dieu vivant, comme l'Évangile le suggère, à tout croyant, à toute croyante. À la femme, en effet, qui disait à Jésus « Heureux le sein qui t'a porté », Jésus a répondu « Plus heureux encore ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent ». Jésus ne dira-t-il pas qu'écouter la parole de Dieu et la réaliser, cela fait de nous des membres de sa famille.
Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
C'est en effet qu'écouter et vivre la parole de Dieu, c'est d'une certaine manière enfanter en nous le Fils de Dieu. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu est aussi arche d'alliance pour réaliser, c'est-à-dire pour rendre réelle la présence de Dieu dans le monde. Nous sommes responsables pour notre part que le monde soit pénétré d'éternel. L'unique condition de cette maternité est l'acquiescement, le oui de la foi.
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Ce que Dieu Père réalise en Marie, comme en chacun de nous, est pure gratuité, et c'est par là que Marie devient ainsi le modèle de toute vie chrétienne. Saint Ambroise le disait d'une belle manière.
Si le Christ n'a qu'une mère selon la chair, le Christ est le fruit de tous selon la foi. Car tout être humain peut recevoir et porter Dieu.
Cet enfantement de Dieu en nous se fait dans le quotidien de nos vies, comme l'exprime cette prière de Jacques Lebas.
Avant que je ne me hâte vers les malades, comme la Vierge Marie vers Élisabeth, apprends-moi, Seigneur, que tu désires me visiter. Oui, tu te tiens à ma porte, même quand je n'y pense pas du tout, et tu frappes. Tu cherches à me rencontrer. Tu voudrais attirer mon attention. Tu souhaites que j'entende, que je vienne ouvrir, pour qu'avec toi je puisse prendre le repas du soir, sur la table où j'aurai mis deux couverts. Pour que je demeure en toi et toi en moi, et qu'ainsi je porte du fruit. Aux malades, on porte volontiers des raisins, si je pouvais surtout leur porter les fruits de ta visite chez moi. Aux malades, on adresse un sourire, si je pouvais refléter vers eux le sourire de bienveillance que tu m'adresses. Aux paroles des malades, on accorde toute son attention. Si je pouvais d'abord accueillir ta parole et ta vie comme un trésor vivant partagé ensuite, comme un soleil levant qui rend le goût de vivre. Visite-moi, Seigneur, je t'ouvre, je t'accueille dans mon intérieur que tu connais mieux que moi, qui n'est que ce qu'il est, mais que tu vas purifier et transfigurer de ta présence, de ton amour.
Nous allons bientôt célébrer Noël, mystère de l'enfantement de Dieu dans la vie de Marie. Mais cela doit nous rappeler, cela doit nous faire vivre le propre enfantement de Dieu en notre vie. Saint Augustin disait « Dieu s'est fait homme, afin que l'homme devienne Dieu ». Ce serait impossible si Dieu était ce tout-puissant qui demeure dans les hauteurs célestes. Mais Dieu s'est révélé en Jésus comme n'étant qu'amour. Et parce qu'il n'est qu'amour, Dieu n'est qu'humilité. Aimer, c'est en effet faire grandir l'être aimé et s'émerveiller de celui qu'on aime. La vraie grandeur à laquelle Dieu nous appelle, c'est de devenir humble. Humble pour que tout être puisse trouver en nous le vrai visage de Dieu. Maurice Zendel en donne ce très beau commentaire.
Le Christ a saisi notre humanité jusqu'en ses racines et vient nous apprendre en effet que nous avons à devenir Dieu. Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu. L'homme qui marche vers Dieu, l'homme qui est divinisé par la présence divine, ne peut que devenir un immense espace de lumière et d'amour où le monde entier est contenu. Mets du pain sur la table, une émission de l'École de foi, de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, bon Noël, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.